Choc FM, entretien avec Elvis and MC.
Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes bel et bien à l'écoute de Choc FM. Merci d'être resté en notre compagnie et merci infiniment à Lionel Kamsu qui revient sur les ondes de Choc FM. Vous vous souvenez, lundi, nous avions parlé de la situation tragique qui s'était produite au Québec et Lionel a accepté de revenir pour nous dire, en fait, pour nous tenir au courant des dernières nouvelles. Et il a aussi accepté, ça je l'en remercie énormément, de continuer à commenter compte tenu de ses connaissances, et vous vous en rendrez compte très très rapidement, plutôt encyclopédique. C'est un féru de d'informations, et bien sûr il a aussi des qualifications professionnelles qui lui permettent d'aller vers l'information avec vraiment beaucoup de facilité, et il a une capacité d'analyse dont vous allez très rapidement vous rendre compte. Bonjour Lionel.
Bonjour Elvis.
Comment est-ce que vous allez aujourd'hui?
Ben ça va, à part le temps, moins 17 degrés, moins 24 ressentis.
Waouh.
Mais ça va.
Ouais, c'est vrai que nous vous joignons comme ça de Québec et les températures ne sont pas toutes à fait les mêmes qu'à Toronto. Même si à Toronto maintenant le temps ressenti est de moins 15, c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup moins que ce que vous vivez à Québec. Alors Lionel, je le disais tantôt, nous vous avons parlé lundi de la situation qui s'était déroulée, la situation vraiment tragique qui a eu lieu à Québec, justement à Sainte-Foy, à quelques encablures seulement de l'endroit où vous vivez. Est-ce que vous pouvez nous donner de vraiment des informations, nous mettre à jour sur ce qui se passe en ce moment et surtout nous rappeler rapidement ce dont il était question?
Oui, pour revenir sur ce qui s'est déroulé, c'est dimanche soir, entre 19h45 et 20h, qu'un individu s'est introduit au centre culturel islamique de Sainte-Foy et a ouvert le feu sur des fidèles qui venaient terminer la prière et ensuite s'est enfui. Lundi matin, lorsque nous parlions, à ce moment-là, on parlait de deux suspects qui avaient été interpellés. Et finalement, il y a l'un des suspects qui a été relâché parce qu'en fait, c'est un témoin. Et c'est même la personne qui aurait appelé le 911 pour signaler ce qui venait de se passer. Donc, la personne finalement qui a été gardée parmi les deux suspects arrêtés préalablement, c'est Alexandre Bissonnette, 27 ans, qui apparemment, selon toute vraisemblance, est l'auteur de cette attaque qui a eu lieu le dimanche soir au niveau du centre culturel islamique de Sainte-Foy. Alexandre Bissonnette, 27 ans, qui a été formellement accusé de 6 meurtres prémédités et de 5 tentatives de meurtre lundi en fin d'après-midi au palais de justice de Québec. Et il sera de retour en cour le 21 février pour connaître la preuve qui pèse contre lui. Des 11 chefs d'accusation portés jusqu'ici, aucun n'est lié au terrorisme, mais d'autres accusations pourraient s'ajouter à mesure que l'enquête progresse. Comme je vous le disais lundi, je réside pas loin du centre culturel islamique, à peu près à 100 mètres. Et dans notre conversation de lundi, je vous disais que j'attends avec impatience de pouvoir terminer avec ma journée de boulot afin de pouvoir passer à la boulangerie, parce que mon boulanger est musulman, espérant le trouver en bonne santé, et l'épicier aussi. Et ben, malheureusement pour moi, j'ai appris dans la journée que l'épicier était,
oh mon Dieu,
était décédé. Azedine Soufiane, 57 ans, propriétaire de la boucherie à Salam, et originaire du Maroc, il est arrivé au Québec il y a près de 30 ans. C'était quelqu'un de très agréable et très accueillant, avec une longue barbe. Aussi, il y a des auditeurs qui ont vu les photos.
Oui, oui, je crois qu'on les a tous.
Barbe blanche.
Oui, on les a toutes vues. Oui, avec cette barbe, très grosse barbe blanche là, et très longue aussi. Oui.
Oui, c'est une épicerie où j'ai passé au moins une fois par semaine pour prendre de la viande, de la sardine et des bananes plantain. C'est quelqu'un de très agréable. La dernière fois où je m'y suis rendu, il y a de cela 2 semaines, j'étais même un peu impatient parce que il y avait une jeune fille d'une dizaine d'années qui était en caisse. Et Monsieur Soufiane l'a formé à tenir la caisse. Donc, il était juste derrière, elle lui donnait des instructions. Moi, j'étais un peu pressé, j'ai dû me retenir parce que bon, fallait bien accepter que l'enfant puisse faire ses classes. Mais c'est la dernière image que j'ai de lui en train d'indiquer à cette petite fille comment rentrer les articles, comment recevoir le paiement. Donc, peut-être qu'il était déjà ainsi en train de transmettre le flambeau à celle qui est soit sa fille, soit sa petite-fille. Donc voilà où on en est. Hier, à Montréal, à l'Arena Maurice Richard, un hommage national a été rendu à trois des victimes. Abdelkrim Hassan, 41 ans, originaire d'Algérie. Khaled Belkacemi, 60 ans, professeur à l'Université Laval, originaire d'Algérie aussi. Et Aboubakar Tabdi, 44 ans, pharmacien et originaire de Tunisie. Leur corps devait rapidement après prendre la direction de leur pays d'origine afin d'être inhumé. Et aujourd'hui, à Québec, un hommage sera rendu aux trois autres victimes. L'épicier Azedine Soufiane. Ensuite, le comptable Mamadou Tano Barry, originaire de la Guinée. Et l'informaticien Ibrahima Barry, 39 ans, originaire de la Guinée aussi. Il faut dire quand même que toutes ces victimes étaient pères de famille. 4 enfants pour certains, 2 pour d'autres. Donc c'est au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'enfants qui se retrouvent ainsi orphelins. Et d'après les informations que nous avons, tous étaient en couple, voire mariés. Donc ce sont aussi des femmes qui vont se retrouver ainsi sans le soutien de leur conjoint.
Oh là là,
On attend d'en savoir un peu plus au niveau des enquêtes, mais toujours est-il que Alexandre Bissonnette, le présumé tireur, se serait rendu à la mosquée le vendredi pour se renseigner déjà, pour faire du repérage. Il avait l'air de quelqu'un qui vient s'informer sur comment les choses se passent à la mosquée, parce qu'il s'intéressait à ce qui s'y passe. Il a demandé quand est-ce que il y a le plus de monde à la mosquée, et ceux qui lui ont répondu pensaient que c'était quelqu'un, parce qu'ils en reçoivent du monde tout le temps qui vient se renseigner, alors qu'apparemment Monsieur Bissonnette était en train de repérer les lieux et surtout de voulait savoir quand est-ce qu'il il était sûr de trouver le maximum de personnes possibles. Et d'après les informations que nous avons, le samedi il serait venu aussi, mais il n'a fait qu'un petit tour et il est reparti, et le dimanche il est venu commettre son acte.
Et donc merci vraiment Lionel pour ce point très 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 complet. Alors mais est-ce qu'on a une idée de la peine qu'encourt Monsieur Bissonnette, ou alors ce n'est pas encore évoqué?
Bon, actuellement on parle de quand même de il est accusé de 6 meurtres prémédités et de 5 tentatives de meurtre. Tant que l'option acte de terrorisme n'est pas mis dans la balance, il risque la perpétuité avec un minimum de 25 ans incompressible. Ça veut dire que après 25 ans, il pourrait éventuellement demander à bénéficier d'une réduction de peine ou d'une sortie prématurée. Pour quelqu'un qui a 27 ans aujourd'hui, dans 25 ans, il aura 52 ans. Mais par contre, si les éléments que détiennent la couronne permettent d'ajouter l'inculpation de actes de terrorisme, la peine encourue devra en principe être encore plus lourde.
Oh, ok, très bien. Merci infiniment, Lionel. C'est un sujet qui est très, très, très lourd et vraiment très tragique. Et j'espère que rapidement, la couronne mettra en place une procédure qui permettra aux familles de faire leur deuil, si tant est que l'on puisse véritablement faire son deuil dans des circonstances telles que celle-là. Continuons avec une nouvelle.
Je tiens quand même à préciser que lors de l'hommage rendu hier à l'Arena Maurice Richard de Montréal, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était là. Le premier ministre du Canada,
Justin Trudeau,
était là aussi. Et tous les deux seront aussi présents aujourd'hui lors de l'hommage rendu aux trois autres victimes ici dans la ville de Québec. Donc c'est tout le Québec. C'est la ville de Québec déjà, au travers de son maire Régis Labeaume. C'est tout le Québec au travers de son premier ministre Philippe Couillard. Et c'est tout le Canada au travers du premier ministre Justin Trudeau qui sont réunis pour dire à ces gens: nous sommes tous des musulmans, nous sommes tous des Québécois, nous sommes tous des Canadiens. Donc, quand même, malgré tout ce qu'il y a de négatif dans ce qui s'est passé, c'est au moins l'occasion de montrer aux Canadiens que nous sommes tous soudés et nous avons un destin commun, quoi.
Effectivement, et je peux vous assurer que du côté de Toronto aussi, la mobilisation a été importante et continue de l'être d'ailleurs pour soutenir, parce que c'est vraiment de l'identité du Canada qu'il s'agit, cette identité multiculturelle vraiment sur laquelle on parie pour l'avenir. Alors Lionel, nous allons continuer avec une nouvelle, mais on va aller un peu plus rapidement, une nouvelle toujours un peu plus triste et qui, elle, pourrait avoir de très très fortes implications politiques. C'est le décès en République démocratique du Congo de Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Étienne Tshisekedi et pour quelles raisons son décès pourrait avoir de fortes implications politiques sur la vie de son pays?
Oui, Étienne Tshisekedi, 84 ans, docteur en droit, est décédé des suites des complications liées à une embolie pulmonaire. C'était le principal opposant au régime du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Et c'est quelqu'un qui, depuis au moins un demi-siècle, était présent sur la scène politique congolaise. Il a d'abord travaillé pendant près d'une vingtaine d'années avec Mobutu, le président Mobutu, le dictateur Mobutu. Et en 1982, il a décidé de quitter Mobutu et de créer l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui, au cours des 35 dernières années, a été le principal parti d'opposition. Et c'est quelqu'un qui a toujours été populaire, il n'a jamais perdu sa popularité. C'était quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui ne faisait pas de compromis. Et actuellement, la République démocratique du Congo est à la croisée des chemins, parce que le président Joseph Kabila, après 17 ans au pouvoir, va devoir céder la place comme la Constitution le demande, parce qu'il a fait deux mandats déjà. Mais depuis le 19 décembre, jour auquel le président Joseph Kabila aurait dû céder le pouvoir, on est dans une sorte de période de transition au Congo, les élections n'ayant pas été organisées. Donc il y a un accord qui a été trouvé entre le groupe au pouvoir de Joseph Kabila et l'opposition conduite par Étienne Tshisekedi pour prolonger le mandat du président Kabila jusqu'à la fin de cette année 2017 et pour préparer les élections présidentielles ainsi que les élections législatives et les élections de gouverneurs. Donc, le décès de Étienne Tshisekedi ou Wamulumba plonge un peu le Congo dans une certaine incertitude parce qu'il représentait, c'était une figure vraiment de pro de la classe politique congolaise qui représentait, malgré son âge, l'alternance et la transition. Parce que pour beaucoup, c'est celui qui fédérait toutes les forces d'opposition et qui aurait été capable, probablement en décembre prochain, de remporter les élections présidentielles afin de mener le Congo vers une nouvelle république. Donc aujourd'hui qu'il est décédé, on se demande si le pouvoir en place va respecter les accords qui prévoyaient que le président Joseph Kabila puisse rester jusqu'au mois de décembre et ne se représente pas aux élections comme la Constitution le prévoit. On se demande s'ils vont respecter ces accords qui prévoyaient la tenue d'élections en décembre. Et on se demande aussi si l'opposition va pouvoir se trouver une nouvelle figure qui fera qu'elle avance de manière unie. Il faut dire quand même que la République démocratique du Congo est le plus grand pays d'Afrique. C'est un pays où il y a pas mal de ressources minières et ce qui suscite la convoitise de pays, beaucoup de pays occidentaux et de beaucoup de voisins comme le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola. C'est un pays qui a connu une certaine instabilité pendant pas mal d'années. Donc on se demande quel sera l'avenir de la République démocratique du Congo après le décès d'Étienne Tshisekedi et quel sera même l'avenir de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, étant donné l'importance du Congo dans ces régions.
Ok, très bien. Merci infiniment, Lionel. On se tiendra au courant. Bien sûr, on va voir qui dans l'opposition pourra émerger, si jamais il y a une figure qui émerge dans l'opposition pour reprendre justement le flambeau et pour réussir à susciter le consensus qui s'était posé sur la personne de Étienne Tshisekedi. Allons vers une actualité un peu moins lourde, mais pas moins importante pourtant. C'est les élections, période électorale en France en ce moment. Benoît Hamon vient de rapporter les primaires de la gauche en France, mais depuis qu'il a remporté ces primaires, on a constaté il y a des voix qui s'élèvent à gauche pour dire leur désaccord. Des députés pourraient éventuellement quitter la gauche pour rejoindre un certain Emmanuel Macron que vous connaissez sans doute certainement. Et aussi, il y a des problèmes que rencontre actuellement François Fillon. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi rapidement?
Oui, il faut dire qu'au mois d'avril prochain, avril 2017, va se tenir le premier tour des élections présidentielles en France et en début mai, normalement le deuxième tour. La droite s'est désigné un candidat au mois de novembre à la personne de François Fillon, 62 ans, ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il a été député pendant pas mal de temps. Il a été ministre aussi de divers gouvernements, notamment sous Balladur, sous Juppé, sous Raffarin. Et c'était, comment dire, l'un des ténors de la droite. C'est même encore l'un des ténors de la droite. Et dimanche, la gauche s'est choisi un candidat à la personne de Benoît Hamon, qui lui est un socialiste, mais qui est de l'aile gauche du Parti Socialiste, c'est-à-dire qui tend un peu même vers l'extrême gauche. Et après, dans la désignation de Benoît Hamon comme candidat de la gauche, il y a C'est un nombre de députés du Parti socialiste qui estiment que Benoît Hamon est trop à gauche, que les mesures qu'il propose ne sont pas réalisables dans le contexte économique mondial actuel, et que c'est du rêve qu'il est en train de vendre aux Français. Et ils estiment qu'ils ne peuvent pas le soutenir. Donc, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, mais beaucoup d'entre eux sont en train d'envisager d'aller vers Emmanuel Macron. Qui est Emmanuel Macron? C'est un jeune de 39 ans qui a été ministre du président Hollande et qui est parti du gouvernement au mois d'août 2016, qui est en train de préparer sa campagne pour la présidentielle 2017 et qui actuellement dans les sondages est donné en deuxième position au premier tour derrière la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Il est donné deuxième depuis quelques jours que François Fillon, le candidat de la droite, est dans la tourmente suite à l'affaire Pénélope Fillon. Qui est Pénélope Fillon? C'est l'épouse de François Fillon. Ils sont mariés depuis 1980, donc ça fait quand même 37 ans. Et ils ont, je crois, 4 ou 5 enfants. Et il s'avère que Pénélope Fillon a été rémunérée en tant qu'assistante parlementaire de son mari. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une suspicion d'emploi fictif. Selon beaucoup de personnes, Pénélope Fillon n'aurait pas vraiment travaillé comme assistante parlementaire de François Fillon. Et elle aurait été rémunérée sans raison aucune. Il faut dire qu'un certain nombre d'éléments quand même, notamment un reportage qui a été publié hier par France 2, chaîne de télévision française, montre que très probablement Pénélope Fillon n'a vraiment pas travaillé pour François Fillon. Dans le reportage qui a été diffusé hier par France Info, Pénélope Fillon déclara à une chaîne de télévision anglaise en 2007 qu'elle ne s'était jamais mêlée du travail politique de son mari, qu'elle n'a jamais été son assistante. Pourtant, d'après les informations qu'on nous donne, elle a été rémunérée depuis au moins une vingtaine d'années pour avoir travaillé en tant qu'assistante parlementaire de son mari. Donc, François Fillon a été élu comme a été désigné comme candidat de la droite française en misant sur l'intégrité, sur l'honnêteté et sur l'austérité.
Oui, alors, je me souviens d'ailleurs qu'il avait fait un tacle très assassin à Alain Juppé en disant qu'on ne s'imagine pas une personne impliquée, qu'on ne s'imagine pas le général de Gaulle en accusation et candidat et pour montrer justement que la probité devrait être le premier facteur de candidature dans ces élections.
Oui, il s'en est pris en fait à Alain Juppé et à Nicolas Sarkozy, parce qu'Alain Juppé a été mêlé à l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris à l'époque, où il était le chef de cabinet de Jacques Chirac.
Jacques
Chirac, qui était maire de Paris. Et il a été condamné à de la prison avec sursis, je pense. Il a fait sa peine et il est revenu en politique. Et Nicolas Sarkozy, lui, il est mis en examen actuellement. Donc il s'est adressé tant à Nicolas Sarkozy qu'à Alain Juppé. Alain Juppé, c'était beaucoup plus. On ne peut pas aspirer à diriger la France. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Et à Nicolas Sarkozy, c'était. On ne peut pas imaginer le général de Gaulle être mis en examen. Donc aujourd'hui, les interrogations, c'est jusqu'à quand François Fillon va-t-il s'accrocher? Parce que moi je suis convaincu qu'il va devoir à un moment enlever sa candidature. Quand est-ce qu'il le fera? Plus il traîne à le faire, plus les chances de la droite de se retrouver au deuxième tour et de gagner la présidentielle sont réduites, parce qu'on est déjà à la veille de l'ouverture de la campagne officielle. Et quand il va finir par retirer sa candidature, qui va reprendre le flambeau? Alain Juppé, qui était arrivé en deuxième position aux primaires, a pour l'instant dit qu'il n'est pas prêt à reprendre le flambeau. Alors quel candidat à droite sera légitime pour porter les aspirations de la droite et aller affronter Emmanuel Macron, aller affronter Marine Le Pen, aller affronter Benoît Hamon? Et même Macron aujourd'hui, qui semble avoir le vent en poupe, il se dit ni de droite ni de gauche, quel programme a-t-il? On ne connaît pas son programme. Beaucoup sont prêts à voter pour lui parce qu'il est jeune, parce qu'il est sympathique, parce qu'il dit qu'il va réformer. Mais quel est son programme? Et de deux, comment pourra-t-il avoir une majorité pour gouverner? Il n'est ni de droite ni de gauche, avec qui va-t-il gouverner? Va-t-on se retrouver dans un gouvernement de coalition qui peut exploser du jour au lendemain comme on le voit en Italie? Et si ce n'est Macron, c'est Hamon. Hamon qui propose un revenu universel, qui est quelque chose qui pour le moment semble irréalisable. ou alors ce serait Marine Le Pen. Donc là, vraiment, il y a une certaine incertitude qui prévoit actuellement qui sera le prochain président de la France, qui qu'il soit. Je crains que la France soit en train de filer un peu vers l'inconnu, mais l'avenir nous dira.
Merci infiniment Lionel, vraiment merci pour ces analyses pointues et vraiment je vous remercie d'autant plus que vous n'hésitez pas à créer un contexte pour que les gens comprennent, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien les raisons historiques hein, surtout qui motivent certains événements actuels. Souhaitons c'est dommage, mais j'ai aussi le sentiment qu'en France on se dirige vers des candidatures de remplacement, comme ça avait été le cas avec Hollande qui prenait la place qui était normalement dévolue à Dominique Strauss-Kahn. Quoi qu'il en soit, merci infiniment Lionel, je vous souhaite une très très agréable journée du côté de Québec.
Merci, bonne journée à vous et bonne fin de semaine à tous les auditeurs de Choc FM.
Merci Lionel, au revoir. Ouais, alors c'est on a fait un très très long entretien avec Lionel. Je vous promets que ça ne durera pas aussi longtemps les prochaines fois, mais je suis sûr que vous avez écouté avec beaucoup de plaisir. C'est déjà la fin de cette émission, du moins ce sera le cas dans 3 minutes. Donc je vais vous laisser d'un moment à l'autre. Je vous souhaite une très très agréable fin de semaine à l'écoute des programmes de Choc FM. Je suis Elvis Nouemsi, j'ai été très heureux d'être avec vous et je vous laisse en compagnie d'une très très grosse figure de la chanson reggae mondiale, Tiken Jah Fakoly, j'ai nommé l'ivoirien, qui nous chante Mon pays va mal, le pays va mal.